Dieu créateur du ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Comme nous venons de le chanter, c'est une évidence que tout est en toi et que personne, ô mon Dieu Père éternel, ne peut résister devant toi parce que tout est en toi. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons entre tes mains. Alors, Papa, nous te disons merci, Père éternel, parce que tes compassions et tes bontés, Père éternel, se sont renouvelées pour nous depuis ce matin. Nous n'avons rien mérité, Père éternel. Tu nous as, ô mon Dieu Père, accordé ta faveur. Tu nous as accordé, ô mon Dieu Père éternel, le souffle de vie. Tu nous as accordé tout ce dont nous avons eu besoin depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Je te dis merci, Père éternel, pour avoir déjà commencé avec nous, Père éternel, les cantiques qui sont montés vers toi. Maintenant, ô Seigneur, nous implorons ta miséricorde pour la suite, ô mon Dieu Père, de ce culte. Que toi, tu sois les prédicateurs attitrés. Je ne suis qu'un instrument, ô mon Dieu Père éternel. Que tu fermes ma bouche, ô Seigneur Jésus. Que tu puisses tout simplement, ô mon Dieu Père éternel, te mouvoir parmi ton peuple et apporter, ô mon Dieu Père, les réponses à chaque question, Père éternel, que ton peuple se pose. Merci pour cette table qui vient d'être dressée et que nous sommes tes invités. Que tu puisses nous être favorable, Père. Merci pour toutes choses, Seigneur. Ce que nous avons demandé et ce que nous n'avons pas demandé, que le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous salue encore très cordialement dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers Jean 8, verset 31, qui dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Amen. Est-ce que nous demeurons dans sa parole? Ah, mais comment nous pouvons demeurer dans sa parole, mes frères et sœurs? Nous devons laisser Dieu lui-même nous parler au travers de sa parole et éviter les interprétations des hommes. Alléluia. Parce que les interprétations des hommes nous éloigneront de la parole. Par contre, quand le Saint-Esprit lui-même vient et prend le contrôle de sa parole, il nous donne ce qui nous est convenable d'une manière correcte. Alléluia! Je suis dans la joie de vous revoir encore ce soir parce que c'est s'il y a un endroit où nous devons être vraiment dans la joie, heureux, c'est ici. C'est ici. Parce que le tout grand Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Nous là. Des pires, vraiment médiocres. Alléluia. Mais il est parmi nous. Il est maître parmi nous. Très bien. Nous sommes toujours dans notre thème de la prière et toujours au quatrième point, n'est-ce pas? Et le quatrième point nous a amené sur un aspect important dont on parle depuis, je pense, trois prédications, c'est-à-dire les délais de la réponse quand nous prions. Nous n'avons aucune promesse, mais nous avons pu relever que Dieu peut répondre par un oui, par un non, par attends un peu, ça va? Très bien. Alors, j'avais dit, on commence par ce qui est très lassant. Attends un peu. Ça choque, n'est-ce pas? Ça dérange parce qu'on ne sait pas à quel moment. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? David s'est posé la question. Jusqu'à quand, Seigneur? J'ai besoin que tu puisses me délivrer de mes ennemis. Et là, après une prière, Dieu te dit, attends un peu. Et Dieu te fait attendre aussi après avoir donné une promesse. Nous avons vu ce que ça a entraîné dans le cas d'Abraham, n'est-ce pas? Très bien. Alors, la fois passée, nous avons parlé du nom. Toujours très sensible. Alléluia. Quand Dieu nous dit non, ben on devient fou, n'est-ce pas? On devient fou. Mais alors moi, ben comment, hein, les autres, ben, ben moi ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est la malédiction familiale? Ah bon, on parle. Des fous joyeux, on parle. Sans réserve. Alléluia. Alors, on a essayé de mettre ces sujets en évidence à travers trois personnages de la Bible. On a pris Moïse, on a pris le Seigneur lui-même, et on a pris l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Alors ici, je voudrais, avant de commencer le sujet de ce soir, parler un peu de deux observations qui m'ont été faites, l'une après la prédication le mercredi, l'autre hier. On m'a téléphoné, on a parlé plus d'une heure. Très bien. Alors, je commence un peu par la première observation. La première observation est celle-ci. Dieu dit à Moïse, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Alléluia. Et Dieu dit, il était irrité, n'est-ce pas? Il était irrité. Pour que Moïse revienne avec cette affaire. Il dit non, c'est assez, ne m'en parle plus. Dieu est dans un état de colère. Alors, nous nous sommes dit, mais malgré la carrure de Moïse et que la Bible témoigne, il n'y a depuis lors pas de prophète semblable à Moïse que Dieu connaissait face à face. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui avait une grande carrure dans le ministère. Très bien. Mais Dieu lui dit non. Alors nous avons cherché le pourquoi, n'est-ce pas? En cherchant le pourquoi, nous sommes allés dans Nombre 20. Verset 12, et nous avons vu que Nombre 20, verset 12, nous avons lu ce qui s'est passé. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes remontés au verset 11. Puis, Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Ça, c'est ce que Moïse a fait. Mais j'ai omis de dire, est-ce que c'est le job que Dieu lui avait demandé de faire? Alléluia. Alors là, il faut apporter cette précision. Je me suis limité à ce que Moïse avait fait et je suis passé rapidement. Non. Avant que ceci ne tombe, mais qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire? Alléluia. C'est intéressant. Alors mes frères et sœurs, il est important que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devons le faire selon le modèle. Ça va? Selon ce qu'il a dit. Ne nous hasardons pas d'écouter nos instincts. Très dangereux. Alors, cette précision devait être apporté. Ce qu'il a fait, il a frappé.
Mais qu'est-ce que Dieu lui a demandé de faire? Quand nous remontons dans le même chapitre, au verset 8, voici ce que Dieu lui avait demandé de faire cette fois-ci. Alléluia. Dieu lui a demandé, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez. Alléluia. Vous parlerez. Donc, le fait de frapper les rochers, mes frères et sœurs, même s'il avait frappé une fois, ce n'est pas ça que Dieu lui avait demandé. Alléluia. Ça va? Donc, c'était une précision de taille. Ça va? Ce n'est pas ça que Dieu lui avait demandé. Donc, le fait de frapper les rochers deux fois ne change rien. Il pouvait frapper une fois. Mais Dieu ne lui a pas demandé de frapper les rochers cette fois-ci. Dieu lui a demandé de parler aux rochers. Alléluia. Alléluia. Donc, c'était important qu'on revienne là-dessus. Et d'ailleurs, le prophète dans Comment puis-je vaincre, parlant de cet épisode, Comment puis-je vaincre? À la page 32, à partir du paragraphe 132, il dit, aucun serviteur de Dieu ne se met en avant lui-même en essayant de prendre la puissance de Dieu pour s'élever au-dessus des autres. Ça, on en avait parlé. Ça va? Il voulait se glorifier lui-même. Ce n'est pas possible. Vous rappelez-vous l'occasion où Moïse fit cela? Dieu lui avait donné le pouvoir de faire ce qu'il voulait. Il avait fait de lui un prophète. La deuxième fois, il frappa les rochers. Ce fut contraire à la volonté de Dieu. Dieu avait dit, parle au rocher. Alléluia. Ne le frappe pas une seconde fois. Sinon, pourquoi? Ça, on avait dit aussi. Sinon, tu détruiras l'harmonie des types de la parole. Donc là, Moïse brisait les types de la parole. Le rocher ne doit être frappé qu'une seule fois. Mais Moïse, en faisant ainsi, proclama la faiblesse, l'insuffisance de la parole. Oui, la parole était ce qui comptait. Ce rocher, c'était la parole. Vous comprenez? Il frappa le rocher une fois et les eaux jaillirent. Ensuite, le peuple eut de nouveau soif. Alors Dieu dit, retourne vers les rochers et parle-lui. Il n'avait été frappé qu'une fois. Vous voyez comment Moïse témoigna de l'insuffisance de la parole, de son inexactitude. Le rocher devait être frappé encore une fois. Alors Moïse frappa le rocher ainsi, il dit, sors du rocher, l'eau ne jaillit point. Alors il le frappa de nouveau en disant, je t'ordonne de sortir, et l'eau coula. Dieu dit, viens ici, tu t'es glorifié toi-même, hein? Tu as pris ma puissance, au lieu de me sanctifier, tu t'es sanctifié toi-même, c'est pourquoi tu n'entreras pas dans le pays. Porte tes regards sur le pays de la promesse, mais tu n'y entreras pas. Et pourtant, il n'y a personne de semblable à Moïse, c'est certain. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première observation. La précision est donnée. Nous pouvons passer. La deuxième observation. Dieu, ce que j'ai présenté, ça va? Que Dieu peut répondre. Oui, non, attends un peu. Alors, je suis fier de mes frères et sœurs qui essayent de se plonger dans la parole comme les chrétiens de Béret. Ces frères ont évoqué la quatrième possibilité. Et qu'en est-il du silence? quand il y a un silence total, pas non, pas oui, pas attends un peu, quand sera-t-il du silence total de Dieu? Du coup, quand le frère m'en avait parlé, moi, j'ai vu Saoul. Alléluia. J'ai vu Saoul. Dieu ne lui répondait pas, ni par l'Urim ou le Thummim. Dieu ne lui répondait pas. Et vous avez vu ce qu'il a fait? C'est la seule idée qui m'a traversé à l'esprit quand je parlais avec les frères. Mais alors, je voulais dire ceci par rapport au silence. Mes frères et sœurs, je n'ai pas la réponse à cette observation pour le moment. Alléluia. Mais j'y réfléchirai. Alléluia. Je prierai à ce sujet. Je rassemblerai les informations. Alléluia. Et au temps convenable, on pourra en parler. Amen. Donc pour le moment, la sagesse m'exige de ne pas m'avancer sur ce point. Alléluia. Je préfère me taire. Ça va? Mais il y a une quatrième possibilité qui a été évoquée. Et quand il y a un silence complet, bon alors, qu'est-ce qu'on dira? Réfléchissez-en. C'est pour tout le monde. Ça va? Et nous avons l'exemple de Saoul qui devenait fou. Dieu ne répondait pas. Et il est allé consulter, si c'est la sorcière d'Endor, n'est-ce pas? Pour faire revenir le prophète. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui répondait pas. Silence complet. Je vous invite à vous lever, comme ça on va aborder les deux observations ont été levées. Maintenant, on peut entrer dans autre chose, tout en se disant qu'il y a toujours le problème du silence de Dieu. Alléluia. Très bien. Alors, ce soir, mes frères, je vous invite à prendre la première épître de notre frère Pierre. Au chapitre 3, nous allons lire le verset 7. Le verset 7, 1 Pierre 3, verset 7. Nous y sommes. On va lire tous à haute voix. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Je voudrais tirer de ce verset la parole de ce soir pour nous, pour Fabrice, qui aime toujours le titre, obstacle à la prière, obstacle au pluriel, Fabrice. Obstacle à la prière. Ça va? Obstacle à la prière, vous allez constater, c'est le cinquième point de ce thème que j'annonce là. Obstacle à la prière. Mais vous pouvez aussi constater J'étais le oui. On ne parle pas du oui. On en parle du non. Attends un peu. Je suis au cinquième point que nous avions annoncé dans le programme sur le thème. Pourquoi? Je mettais sur le oui. Ça, c'est ma perception. Je n'aborde pas le oui. C'est simple. Je considère que quand on a été exaucé, la tension baisse, n'est-ce pas? La tension baisse, effectivement. On entre dans les louanges, n'est-ce pas? Waouh, waouh, Dieu a fait, waouh, 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 waouh. On danse. Alors je me suis dit, à moins que, quand la tempête souffle, il y a une cause. Et quand la tempête disparaît, il y a le calme. C'est comme notre bébé de 2 ou de 3 mois. Quand il pleure, aller dans son berceau pour vérifier soit il a fait caca, il a fait pipi ou il a faim. Quand vous lui donnez son biberon, il dort. Ça va? C'est que il y a eu un besoin, la demande a été formulée, maintenant qu'on a répondu à la demande, l'enfant est calme, on ne s'agite plus. Ça va? Est-ce que vous êtes d'accord avec ma perception? On ne s'agite plus, on est, oh Dieu a fait, alléluia, alléluia, on saute, la tension. Là, je me suis dit, on réserve l'énergie pour passer à autre chose. Ça va? Obstacle à la prière. Obstacle, comme j'ai l'habitude de consulter mon ami Robert, il me dit, ce qui empêche ou retarde une action, une progression. C'est une difficulté. Et nous entendons souvent dire dans le monde, on se heurte à des obstacles insurmontables. Contraire d'insurmontable, surmontable. C'est-à-dire, je peux surmonter ma colère. Je peux surmonter mes émotions. Ça va? Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Les obstacles à la prière, le premier point que nous allons aborder dans les obstacles à la prière, les relations entre époux et épouse. Ça va? C'est ça qu'il vient. C'est ça que Pierre démontre. Les relations entre époux et épouse. Mais avec le verset 3, nous ne serons pas satisfaits. Nous devons lire à partir du premier verset. Ça va? Puisque le verset 7 n'est que pour l'homme. C'est que Pierre dit concernant l'homme par rapport à sa femme. Et c'est là où il conclut, pourquoi est-ce que l'homme doit être comme ça? Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, comment la femme doit être? Pierre dit, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Là, nous avons le tableau complet. Alléluia. Alors, mes frères, l'apôtre Pierre ici nous convie à un nouveau comportement dans la famille pour surmonter les obstacles à la prière. Alléluia. Nous devons avoir un nouveau comportement. C'est pour dire que ce soir, tout le monde va passer au carouache. Ah, tout le monde va passer au carouache. Puisqu'on parle de femme, on parle de mari. Alléluia. Que personne ne me dise, ah, mais oui, mais là, tu as quand même été un peu trop fort pour les sœurs. Ah, mais là, tu as été un peu trop fort pour les frères. Frères, sœurs, vous allez m'excuser, même moi-même ici. Vous savez, Jonas n'a pas voulu se rendre à Ninive. Alléluia. Il a fui. Si je pouvais fuir et la fermer, je passais au-dessus. Parce que c'est trop fort. Alléluia. Je vous dis, c'est trop fort. Vous êtes là, c'est bien. Mais restez chez vous, en train de travailler là-dessus. Vous vous dites, aïe, 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 aïe. Non, Seigneur, je ne vais pas dire ça. Non. Nous allons tous passer au carouache. Très bien. C'est l'Esprit du Seigneur. Beaucoup d'obstacles dans nos prières à cause de notre conduite entre époux et épouse. Et ceux qui sont en acte mariés, dressez vos oreilles, et ceux qui sont en puissance marié, c'est-à-dire en voie de le devenir, chef, regardez-moi très bien. Moi, je suis déjà un vétéran, mais quand même, les difficultés persistent toujours. C'est dangereux. On commence comme l'esprit a commencé, il a commencé par la conduite chrétienne de la femme. Donc, on commence aussi par là, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez constater que pour dresser le tableau de la conduite de la femme chrétienne, il y a 6 versets. Voyez-vous ça? 6 versets. Donc, ça sera aussi proportionnel par rapport à ce que je dirais. Ah, mais oui. Mais faisons la part des choses. Par contre, pour parler de la conduite chrétienne des maris, il n'y a qu'un verset. Ça va? Il n'y a qu'un verset. C'est très intéressant. Hein? C'est très intéressant. Donc, on commence par la conduite chrétienne de la sœur. Alléluia. 6 versets. Dieu sait. Dieu protège beaucoup hein, la femme. Parce que la femme donne la vie. Alléluia. Dieu aime bien la protéger à la maison sous l'autorité de ses parents. Et vous voyez bien, entre garçon et fille, le papa est toujours un peu sévère par rapport à la fille, n'est-ce pas? quand tu arrives dans le mariage, sous l'autorité du mari et Dieu aussi est sévère. Alléluia. Alors, ma sœur, l'Esprit parle des devoirs de l'épouse envers son mari pour obtenir l'exaucement dans tes prières. Alors, ma sœur, peu importe quel mari tu as, sinon on déchire cette page de la Bible. Peu importe le mari que tu as, croyant, converti, soulard, brigand, voleur, moi, je n'y suis pas. Alléluia. Donc, peu importe le mari que tu as, le verset 1a dit, femme, soyez de même soumise à vos maris. Alléluia. Donc, ton devoir est de lui obéir, de lui montrer ta soumission. Je suis désolé de lui montrer ta soumission. Vous savez, le participe grec traduit par soin soumise veut dire, ce participe en grec, on est allé chercher. C'est là laborieux. Le participe qui est traduit là, en grec, le participe qui est traduit, c'est, je ne sais pas comment lire ça, hypotasomenai. C'est le participe qui est traduit en grec pour parler de soumis. Hypotasomenai signifie étant sous autorité. Alléluia. Étant sous autorité à toute la force d'un commandement. Et Pierre dit la même chose dans 1 Pierre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bon et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Alléluia. Donc, selon ce commandement, les femmes doivent se soumettre à leur propre mari. Il est écrit dans Éphésiens 5, verset 22. Qu'est-ce que nous lisons? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et dans Colossiens 3, il est écrit, Colossiens 3, verset 18, nous lisons, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Alléluia. Conduite notre conduite entre époux et épouse. Toi la femme, toi ma sœur, la Bible te dit sois soumise à ton mari comme il convient dans le Seigneur. Comme il convient dans le Seigneur, hein? Alléluia. Précisons que ces commandements ne demandent pas aux femmes de se soumettre aux hommes en général. Alléluia. Mais à leur mari. Pourquoi? Afin d'assurer l'ordre dans le foyer. Point barre. Ça va? C'est pour assumer l'ordre dans le foyer. Dieu veille. Le verset 1b, nous retournons dans 1 Pierre, le verset 1b dit, afin que si quelques-uns n'obéissent point, c'est-à-dire de maris qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Quel travail vous avez! Hein, mes sœurs? Quel travail! Les femmes doivent être soumises, même si leurs maris ne sont pas croyants, afin que ces hommes puissent être sauvés par la conduite de leurs femmes. Ma sœur, quelle lourde responsabilité. Donc, si ton mari continue à mener cette vie qu'il mène, tu dois entrer aussi dans ta chambre, commencer à t'interroger. Parce que tu as une mission. Alléluia. Tu as une lourde responsabilité. Le verset B, non, le verset 2. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Waouh! Ma sœur, écoute-moi bien. La vie chaste et respectueuse d'une femme chrétienne peut, sans même une seule parole, adoucir le cœur de Pierre le plus dur. Alléluia. Chaste qui s'abstient volontairement des plaisirs sexuels. Chaste. Ma sœur, la vie chaste et respectueuse d'une femme chrétienne peut, sans même une seule parole, adoucir le cœur de Pierre le plus dur. Donc, ce n'est pas par des disputes, par des reproches, par des réprimandes que se fait l'œuvre, mais c'est par la vie pratique, par la vie vécue. C'est ça que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Attention, attention. Dans son exposé, le mariage, problème ancien, le frère Franck dit ceci à la page 24. Il dit, les femmes doivent manifester un esprit doux et paisible qui attire à elles le mari. L'esprit doux, on ne le voit pas. L'esprit paisible, on ne le voit pas. Toujours reproche, toujours réprimande. Et toi aussi, tu es un homme, toi. Hein? Aïe. Oh, un grand gao là. Hein? Tu es un homme, toi. Oh. Ok. La femme a la possibilité de créer dans son foyer une atmosphère céleste. Voyez-vous? C'est par son esprit doux et paisible. C'est comme cela que nous pouvons entrer dans une maison et nous allons constater une atmosphère céleste. Parce que la femme, elle est douce, elle est paisible. Mais dès qu'on entre, on sent du piment. On sent du piment. On n'a même pas envie de rentrer vite à la maison. On traîne gauche, droite, on invente des missions. Parce que quand j'arrive à la maison, toujours, waouh! Si, sur terre, dans laquelle le mari et les enfants se sentent bien, si elle ne prend pas garde et que se réalise ce que la Bible dit au sujet d'une femme querelleuse, elle peut faire de sa propre maison un enfer et ruiner son mariage et sa famille. Ma sœur, toi qui es ici et toi qui es à la maison, tu m'écoutes bien. Le mariage, problème ancien, un exposé du point de vue biblique par Frère Franck à la page 24. Tu vas lire ça calmement chez toi. Ici, je ne prends que des parties pour asseoir ce que je suis en train de faire passer comme message. Que l'Esprit est en train de faire passer comme message. Tu dois prendre garde. Une femme querelleuse, que dit le livre de Proverbes 21:9. Proverbes, présente-nous un peu rapidement cette femme querelleuse. Proverbes 21:9 nous dit, Proverbes 21, verset 9, nous pouvons lire, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Alléluia. Donc, je préfère vivre dans 4 mètres carrés au lieu de vivre dans 16 mètres carrés parce que toi, dès que j'arrive, ce sont les flèches. Femme querelleuse. On peut encore voir chapitre 27, hein, mais je laisse. Femme querelleuse. Keba. Retournons. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Oh là 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 là. La femme qui remporte ce genre de victoire a un charme séducteur qui ne vient pas d'une parure extérieure. Alléluia. C'est-à-dire, les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, ou bien les cabellos, vous perdez votre temps. Non. Tu ne gagnes pas. Tu ne gagnes pas. Tu n'auras pas de victoire. Ton charme séducteur doit venir d'une parure, verset 4, mais la parure intérieure est cachée d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix. Alléluia. L'ornement de la femme chrétienne doit être celui d'un esprit doux et paisible qui a un grand prix devant Dieu. Donc, nous perdons notre temps, ma sœur. Ne considérez pas la parure extérieure comme la source de la véritable beauté. Détrompez-vous. Aujourd'hui, on voit avec à l'époque du prophète, quand il parlait de la science, on faisait des lifting. Mais aujourd'hui, on est au-delà des lifting. Quand on te montre une photo d'une femme, voilà, ça c'était avant. Et après, waouh, tu es étonné. Tu es étonné. Tu ne la retrouves plus. Mais ça, ce n'est pas la seule. Ah, vous allez voir maintenant, avec l'hydroquinone, on a décapé la peau. Oh. Moi, j'ai regardé loin. Waouh! Waouh! En croyant que, avec cette parure extérieure, tu auras la victoire pour que ton mari puisse être gagné en Christ. Rien du tout. Ça, c'est pour les gens du dehors. Ça va? C'est pour les gens du dehors, ça. Mais une fille de Dieu doit être propre. Ça, j'insiste. Tu dois être propre. du parfum, toindre d'huile, tout ça, bien peigner les cheveux, présentable, tout ça. Mais attention! Ne considère pas la parure extérieure comme la source de la véritable beauté. La véritable beauté, nous dit les Écritures, est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voilà. C'est comme cela que tu vas remporter ce genre de victoire en ayant un charme séducteur qui ne vient pas d'une parure extérieure, mais d'une parure intérieure. Ça va? D'un esprit doux et paisible, c'est ça qui a un grand prix devant les yeux de Dieu. Tous, tout est la joue là. Des ongles pions, des estimes pions, des cheveux qui descendent pions. Quand moi je regarde, j'ai envie de vomir. Et puis moi je me dis, je suis de la vieille école. Les femmes autrefois, nous, vers les années 70, ils n'avaient pas de tous ces soucis. Elle était propre, très propre. Juste au salon, on fait de modèle, un peu de bigoudi, propre. Mais aujourd'hui, tout le monde est happé. Incapable de sortir tel qu'on est. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est l'extérieur, ce n'est pas ça que Dieu nous demande. La Bible nous dit, à moins que vous allez me dire, frère Albert, non, franchement, tu as été trop loin. Non, la Bible dit, tu dois avoir une parure intérieure d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Quand nous allons au verset, passons le verset 5, c'est une explication. Verset 6, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc le verset 5 nous propose Sarah comme un modèle, alléluia, comme un modèle dans ce domaine. Elle appelait Abraham son Seigneur et lui était soumise. Alors maintenant, ma sœur, Tite dresse le portrait d'une vraie femme chrétienne. Le portrait. Prenez Tite 2, versets 4 à 5. Tite 2, versets 4 à 5, qu'est-ce qu'il dit? On commence depuis le verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisant, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes 1. À aimer leur mari et leurs enfants. Donc tu dois être aimante. Ça va? Envers ton mari et tes enfants. 2. Tu dois être retenu. Retenu, qualité de quelqu'un qui sait garder de la mesure dans ses réactions, dans l'expression de ses pensées. Ce n'est pas à cette... Oh, oh! Non, ça brûle. Non. 3. Tu dois être chaste. Alléluia. 4. Tu dois être occupé aux soins domestiques. 5. Tu dois être une bonne personne. Pas dans le sens de servante, hein, mais dans le sens d'une femme vertueuse d'une femme honnête. Alléluia. Et 6, tu dois être soumise à ton mari. Ça va? C'est le verset 4 et 5 qui nous dresse un portrait de cette femme dont Pierre parle. Alléluia. Alléluia. Alors, ma chère sœur, ne te rends pas coupable de rébellion envers ton mari. La rébellion, c'est le péché des anges déchus, celui des impies, des damnés, pour avoir rejeté Christ. La rébellion est la source même du péché. Attention, ma sœur, sois pas rebelle. Chère sœur, Dieu te dit clairement que si tu ne veux pas être soumise à ton mari, tes prières ne sauraient être exaucées. Ça va? J'abrège. Comme ça, les sœurs vont un peu se calmer, puisque ça bouillonne. Verset 7. La conduite chrétienne de Marie. Nous les hommes. Maintenant, les sœurs vont commencer à vous regarder. C'est votre tour maintenant. Nous, on nous laisse un peu tranquille. Ah, frère, j'ai déjà. La Bible te dit ceci et me dit aussi. Marie, montrez à votre tour. Voyez-vous? Donc, on vient de parler de la femme. Hein? L'Esprit dit maintenant, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi être hérités avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. L'apôtre exhorte le mari chrétien à faire à leur femme deux dons d'amour. Deux dons d'amour. La compréhension et le respect. Alléluia. La compréhension et le respect. Les mots grecs qui sont traduits en sagesse, ici, sont deux mots grecs qui sont traduits en sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Kata, new, sin. Ce sont ces deux mots-là traduits pour donner sagesse. Ça veut dire quoi? Kata, new, sin. Traduit par sagesse signifie selon la connaissance ou avec la compréhension, souligne que le mari devrait comprendre les besoins spirituels, émotionnels et physiques de leur femme. Parce que la femme est émotive. Si ça s'échappe, frère, c'est toujours des soucis. Et être prévenant à leur égard, c'est-à-dire être plein d'attention délicate. Plein d'attention délicate, chef. Compliqué, mais c'est la parole. Plein d'attention délicate. Le mari doit honorer aussi leur femme comme un sexe plus faible. Le mot grec traduit ici en plus faible, asthenestero, se rapporte à une faiblesse physique ou émotionnelle, non à une infériorité intellectuelle. Ça va? Faiblesse physique ou émotionnelle, non à une infériorité intellectuelle, car là, les femmes sont co-héritières de la grâce des vies. Frère Franck dit ceci pour l'homme. Les hommes sont enclins à la déraison. Parce que la femme est émotionnelle et comme elle, c'est comme de l'essence, et ça entraîne les hommes à la déraison. C'est pourquoi l'exhortation leur est faite de vivre en honorant leur femme selon la connaissance, en ne les traitant pas comme un essuie-pied ou une femme de ménage. Ça va toujours. Ah ben, ça cogne, hein? Il est écrit dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 11, verset 3, nous lisons, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Alléluia. Nous lisons encore la même chose dans Éphésiens 5, verset 23. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Selon la parole, l'homme doit occuper la place de chef et de sacrificateur de son foyer, étant responsable devant Dieu de sa femme et de ses enfants, comme Josué qui a pu dire dans Josué 24, 15. Josué 24, 15, qu'est-ce qu'il a dit? On peut commencer au verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. » Il prend l'engagement. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alléluia. C'est un engagement de suivre Dieu, quoi qu'il arrive. C'est bien, l'homme. Tu es le chef. Et maintenant, prenons un peu Éphésiens 5. On a parlé d'Éphésiens 5, 23. Prenons Éphésiens. Éphésiens 5, 25. Qu'est-ce qu'il dit? Nous étions au verset 23. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ, ça, on est soulagé, hein, les hommes. Hein? On a parlé de soumission, maintenant je suis chef, c'est confirmé. Alors, si tu as toujours douté de ma supériorité en tant que chef, Oyo Kiango, tu as entendu. Je suis chef. » OK. Et lisons Éphésiens 5, 25. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ah! Mon frère, je ne veux pas que tu poses à ton frère la question. Est-ce que mon frère, aimes-tu ta femme comme qui sait aimer l'Église? Mais que tu te poses la question. Est-ce qu'Albert, tu aimes la sœur Fifi comme Christ a aimé l'Église? Cachons-nous. Parce que c'est honteux. Ça cogne. Mais c'est ça l'exemple qu'on nous donne. On ne peut pas dire autre chose. Alléluia. Il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est ça la comparaison qui est faite. Donc, de la manière Christ a aimé l'Église, c'est de cette façon aussi, frère, tu dois aimer ta femme. Alléluia. Il n'y a pas de magie à faire. Mais la réalité spirituelle, c'est celle-là. Il n'y a pas autre chose. Vous avez un modèle. Alors nous devons faire les choses comme le modèle. Alléluia. Si nous les faisons autrement, ce sont des problèmes. Ça va? On te dit de parler au rocher. Tu frappes. Tu as des problèmes. Alléluia. On t'a dit de parler au rocher. On ne t'a pas dit de frapper les rochers. Tu frappes. Tu vois, tu n'entreras pas en Canaan. Alors maintenant, on nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Si nous faisons autrement, mon frère, ma prière est qu'après la prédication, que chacun puisse se rendre à Dieu. Je rappelle, l'amour conjugal exige un sacrifice total de l'un pour l'autre. C'est un appel à mourir, je dis bien à mourir au sens figuré, pour sa femme, comme Christ a sacrifié son corps pour l'Église. C'est un appel à demeurer fidèle, quelles que soient les circonstances, à donner à sa femme la première place. C'est ça que Christ a fait. À la considérer comme plus importante que soi-même. Chef, tu dois apprendre à surprendre de temps en temps ta dulcinée. Ça va? Tu dois apprendre à la surprendre avec une attention délicate. Souvenons-nous, toujours de l'amour de Dieu qui est tout à fait inconditionnel. Alléluia. Aucune condition n'est posée, aucune exigence n'est requise. Il nous aime malgré nos faiblesses et nos manquements. Waouh! Waouh! Donc le modèle est là. Le modèle est là. Si toi, tu commences à additionner, hier, fais ça. Non. Ce n'est pas ça. Et ça pose des problèmes. Le frère Franck dit, l'apôtre explique clairement plus loin que le mari rende à la femme ce qui lui est dû. Et pareillement aussi à la femme au mari. La femme ne dispose pas de son propre corps, mais le mari est pareillement aussi. Le mari ne dispose pas de son propre corps, mais la femme. Tu es chef, ok. Toute la journée, tu as traité ta femme comme un essuie-pied ou une femme de ménage, n'est-ce pas? Alors maintenant, le soir, tu commences à faire des propositions. Tu deviens doux, gentil. Non, monsieur, tu es un margoulin. Nous, toute la journée, tu l'as trimballé partout. Et après le soir, maintenant, à partir de 18h, tu deviens gentil. Et le soir aussi, chaque fois, avant les 30, les 5 jours avant les 30, papa, qu'est-ce que vous allez manger? Vous voulez que je vous prépare quoi? Hein? Parce qu'il y a une demande en vue, le 30 va fonctionner. Ça, ce sont des magouilles. Ce n'est pas digne des chrétiens. Non, ce n'est pas digne, mes frères. Non, et ça pose toujours des problèmes. Après, on n'est pas satisfait. Je tire la tête pendant une semaine, pendant un mois. On ne se parle pas, on ne prie plus ensemble, tout ça. Des problèmes entrent dans la maison. Et c'est à ce moment-là que les problèmes vont entrer dans la maison. Vous n'avez pas veillé. Quand je dis attention délicate, c'est toute la journée, chef. Pas attendre. Elle a travaillé toute la journée, les enfants qui dérangent, la maison est sale, tout ça. Et toi, tu étais là comme un... Je suis le chef. Tu calcules, hein? Vers 18h, tu commences à dire, ah oui, mais tu sais, tu commences à apporter de causeries qui n'ont rien à voir, sauf qu'avec un but caché derrière la tête. Ça fait rire. Mais je vous dis, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Il n'y a pas de chantage. La femme ne dispose pas son propre corps, mais le mari est pareillement aussi. Le mari ne dispose pas de son propre corps, mais la femme. C'est ainsi que Dieu a ordonné harmonieusement l'égalité matrimoniale unie dans le cœur et accomplie dans le corps, comme lui-même avait dit, et les deux seront une seule chair. Paul ajoute à la loi fondamentale pour le mariage que l'on vient de présenter. Ne vous privez pas l'un l'autre, à moins que ce ne soit d'un consentement mutuel. Et dans quel but? Pour vaguer à la prière. Vous voyez l'importance de la prière? Vous vous privez uniquement pour vaguer à la prière. Un moment. Et en accord. Commencez par dire, mais non, tu sais bien, chérie, je gêne. Oh, mais tu gênes comment? Et alors, sans me dire que tu gênes. Tu fais des projets comme ça, de gêner seul comme ça. Mais tu sais bien, le vendredi, je gêne, puis... Ben, mais non! Mettez ça à table, discutez-en. Bon, dis chérie, tu sais, à partir de ce mois, je prends. Est-ce que ça t'arrange? On a dit. À moins que ce ne soit d'un consentement mutuel pour un temps, afin que vous vaguiez à la prière et que vous vous trouviez de nouveau ensemble, afin que Satan ne vous tente pas à cause de votre incontinence. Ce n'est pas du sinois, c'est pour vous et moi. Donc, le mari qui ne se comporte pas avec sa femme selon l'ordre précis de la parole de Dieu s'expose à voir ses prières non exaucées. Alléluia. Et la femme, si tu ne te comportes pas selon ce que Dieu dit, vous serez une maison toujours avec des situations bizarres. Vous ne comprenez pas. Ah, les sorciers, ah, ceci. Mais non, il y a un problème entre vous deux. Il y a un problème entre vous deux. C'est pour cela que vous constituez un obstacle à l'exaucement de vos prières. Votre maison n'avance pas. À cause du manque d'entente, manque d'accord. Obstacle à la prière. La soumission à l'ordre divin dans la vie conjugale est essentielle pour une vie de famille paisible et harmonieuse. Pour l'exaucement de la prière jour après jour. Quand ça bloque, vous avez un souci particulier. Rentrez en vous-même. Chérie, viens. C'est toi. Alors, ici, comment mettez-vous en ordre et commencez à prier ensemble et vous aurez toujours du succès. Quand vous ne vous conformez pas selon le plan de Dieu via Pierre, vous aurez des soucis. Hein? Les conjoints marchant dans le relâchement, comme aussi les enfants rebelles envers leurs parents, contribueront à éloigner du foyer la bénédiction divine. Alléluia. Je dois vous dire la vérité. Les péchés qui entravent la vie de prière sont ceux qu'on commet dans le cercle intime du foyer. Voilà, c'est... Non, ça c'est extérieur. Mais dans la maison. Dans la maison. Soyons-en conscients. N'attendons pas qu'un Nathan vienne nous confronter à nos manquements par rapport au plan que Dieu vient de nous décrire en termes de conduite en tant que des enfants de Dieu pour que nous obtenions l'exaucement de nos prières. Si nous vivons autrement que ce que 1 Pierre 3, 1, 7 vient de nous dire, bonjour les dégâts, que Dieu vous bénisse. J'ai dit ce que je devais dire, le reste, que Dieu nous visite dans nos cœurs, que Dieu nous accorde la force pour pouvoir appliquer ce qu'il vient de nous dire. Oh, quand je songe à l'amour de Jésus,